Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pas de hausse d'impôts, mais un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Voilà comment Gabriel Attal compte corriger le déficit de la France, plus important que prévu. Le Premier ministre qui annonce une plainte de l'État après la démission à Paris d'un proviseur menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile.
Et ne manquez pas, invité événement à 8h30 sur RMC et BFM TV, ce sera Michaël Paty. C'est sa première interview donc à la radio et à la télévision. Vous l'entendrez, elle mène un véritable combat pour les professeurs et la liberté d'expression depuis la mort de son frère.
Et enfin, le bout du tunnel, c'est cet été que l'EPR de Flamanville sera enfin raccordé à l'électricité avec, tenez-vous bien, 12 ans de retard.
Pendant une demi-heure hier soir, Gabriel Attal a expliqué comment il comptait redresser les finances publiques.
Oui, les comptes étant dans le rouge, un déficit à 5,5% du PIB l'année dernière, plus important que prévu, mais l'objectif est toujours d'atteindre les 3% à la fin du quinquennat. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre hier soir donc sur TF1.
Moi, le sujet, c'est de désendetter la France. Parce qu'un pays qui est surendetté, ça n'est pas un pays libre. C'est comme pour des ménages, des Français. Si vous êtes surendetté, vous dépensez tout votre argent pour rembourser votre dette. Vous ne pouvez plus investir, faire des choix, faire des projets pour l'avenir. On dépense aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros, 50 milliards d'euros par an pour payer les intérêts de notre dette. Moi, cet argent, je préférerais le mettre dans nos écoles, dans nos hôpitaux, pour notre police. Et donc c'est pour ça qu'on va maintenir ce cap des 3% et qu'on aura l'occasion de présenter à la mi-avril la trajectoire pour y parvenir avec les déficits qu'on prévoit pour les 3 prochaines années.
Alors, pour y parvenir, Victor Jeannin pour RMC, pour y parvenir, il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais une quatrième donc réforme sous Emmanuel Macron de l'assurance chômage dont on a déjà les grandes lignes.
Oui, elles ont été fixées hier soir par le Premier ministre. Première piste, la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, les chômeurs sont indemnisés 18 mois maximum. Gabriel Attal souhaite réduire cette durée de plusieurs mois sans descendre plus bas que 12 mois. Le Premier ministre explique aussi qu'il va falloir que les Français travaillent plus longtemps avant de prétendre au chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. C'est ce qu'on appelle la durée d'éligibilité. Gabriel Attal veut donc la durcir. Il n'exclut pas non plus de réduire le montant de l'indemnisation, même si cette piste a moins sa préférence que les deux précédentes. Économies attendues grâce à cette réforme, plusieurs milliards d'euros par an à terme. Les syndicats, qui sont tous furieux par ces annonces, ont jusqu'à cet été pour négocier avec le patronat en respectant donc ces grandes lignes. Entrée en vigueur de cette réforme prévue à l'automne.
Et après cette annonce, les syndicats ont immédiatement exprimé leur colère, leur inquiétude aussi, comme Denis Gravouille de la CGT.
En termes de conséquences pour les personnes concernées, c'est très très grave parce que ça veut dire des gens qui vont se retrouver en fin de droit au bout d'un an ou alors sans allocation chômage du tout dès le départ parce qu'ils n'auront pas atteint le seuil qui serait durci. On va avoir des milliers, des centaines de milliers de travailleurs pauvres, un taux de chômage qui est officiellement bas, mais derrière un taux de pauvreté qui est masqué et qui est très très élevé. C'est exactement ça que vise Emmanuel Macron.
Parmi les autres dossiers évoqués hier soir par Gabriel Attal, il y a aussi la laïcité à l'école, sans cesse mise à l'épreuve et avec une forme d'entrisme islamiste. Voilà ce que dit le Premier ministre, qui annonce une plainte de l'État après la démission d'un proviseur menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile au lycée Ravel à Paris. Cette élève avait déposé plainte pour violence contre le proviseur. Mais alors Guillaume Bié, chef du service police-justice RMC, la plainte n'aboutira pas.
Le parquet de Paris a classé sans suite la plainte de l'étudiante parce qu'il était impossible d'établir les faits de violence qu'elle dénonçait et qui ont aussi été largement répercutés sur les réseaux sociaux. Dès le 5 mars, la ministre Nicole Belloubet démentait cette version et la directrice d'académie ajoutait que l'étudiante avait reconnu qu'elle n'a pas été giflée. Aveu que la jeune femme conteste dans une vidéo. Quant aux conséquences de cette affaire, après les menaces de mort proférées contre l'ancien proviseur, deux hommes ont déjà été arrêtés, l'un en région parisienne, 26 ans, il sera jugé dans un mois, l'autre, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé en Normandie à Trouville il y a deux semaines, identifié par son adresse internet. En comparution immédiate, il a été relaxé, mais le parquet a fait appel.
Et je vous rappelle qu'à 8h30, Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, mort il y a 3 ans à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30 sur RMC. Première fois qu'elle prend la parole. Le village du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, est totalement bouclé ce matin, 9 mois après la mystérieuse disparition du petit Émile, 2 ans et demi. La justice organise en fait une mise en situation, sorte de reconstitution à minute par minute du jour de la disparition, avec 17 personnes présentes ce jour-là. En pleine opération Place Nette contre le trafic de drogue, saisi XXL à Marseille de plus de 600 000 euros en liquide dans un box du centre-ville. 8 personnes ont été interpellées. Mieux vaut tard que jamais, c'est cet été, je vous le disais, avec 12 ans de retard, donc que l'EPR de Flamanville sera enfin raccordé à l'électricité. Mais alors jusqu'au bout, c'est compliqué avec un énième contretemps pour cette centrale dernière génération, Julien Coudreau.
Oui, dernière en date, avant-hier, le chargement du combustible du réacteur prévu pour la fin du mois est repoussé à mi-avril. Mais on n'est plus à deux semaines près, soulignait à juste titre hier le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. L'EPR de Flamanville devait être mis en service en 2012. Sa construction a débuté il y a 17 ans. Construction stoppée un an plus tard en raison de fissures dans le béton coulé pour bâtir les fondations. Début d'une très longue série de contretemps marqués par la mort de deux ouvriers en 2011, le lancement d'un audit après l'accident nucléaire de Fukushima et d'innombrables déboires techniques. Qualité de l'acier de la cuve du réacteur, soudure défectueuse, pièces métalliques non conformes, un chantier maudit dont la facture a été multipliée par 4, coût total 13,2 milliards d'euros selon EDF, qui doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire sur cette mise en service prévue cet été, sauf nouveau contretemps d'ici là.
Dans le contexte de la crise agricole et après la bataille la semaine dernière du CETA, Emmanuel Macron est au Brésil, où le président a appelé à bâtir un nouveau Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains, accord que la France bloque depuis 2019. C'est la star véritablement annoncée des prochains Jeux Olympiques cet été à Paris, le nageur français Léon Marchand, qui a encore brillé cette nuit aux États-Unis en battant un nouveau record aux championnats universitaires, compétition qu'il dispute en ce moment à Indianapolis. RMC est à ses côtés. Julien Richard sur place, énorme chance de médaille donc cet été pour les Jeux, c'est l'attraction de la natation. Les Américains parlent d'une March Madness.
Oui, les Américains ont rebaptisé cette March Madness.
March Madness.
La folie marchant au bord du bassin d'Indianapolis. Même ses adversaires ont les yeux rivés sur le phénomène français.
J'adore sa façon de nager, c'est magnifique. Il fait évoluer notre sport sur un autre niveau et c'est beau à voir.
C'est tellement fun de le voir casser toutes ces barrières. Il rend ce sport fun à regarder et ça le fait grandir.
C'est le nouveau Michael Phelps.
Bill Studd entraîne l'équipe de l'Université de Floride.
Il a tellement de points communs avec lui, tellement de courses, d'options, d'armes comme Michael.
L'étudiant d'Arizona State a donc tapé dans l'œil des Américains et plus seulement du petit milieu de la natation. Jenny Vrentas, journaliste au New York Times.
Avoir battu le dernier record de Michael Phelps l'été dernier a marqué les esprits des Américains. Il n'est pas encore totalement connu du grand public, mais il le sera certainement après les Jeux Olympiques.
Et sur la route vers Paris, Léon Marchand pourrait bien marquer un peu plus les esprits cette semaine à Indianapolis.
Et puis la liste s'allonge. Tiens, en plus du nageur Florent Manaudou, bien là, il y a la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon qui est à son tour candidate pour être porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques cet été. Ça va être le dossier hein, jusqu'à ouais. Cet été, tour à tour, les athlètes vont se déclarer candidats.
Le grand casting.
Exactement. Et à la fin, on verra bien. Mais vous savez quoi, Quentin ? Il y a Christelle qui a écouté votre journal et notamment les points sur les décisions de Gabriel Attal de faire évoluer l'assurance chômage. Et Christelle nous a appelé au 32-16. Bonjour Christelle.
Bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe.
Christelle, vous travaillez à France Travail, au service indemnisation précisément, dans le département de la Manche. Et comment est-ce que vous réagissez, vous, à ces pistes lancées par Gabriel Attal hier pour une troisième réforme de l'assurance chômage ?
J'en pense pas du bien, forcément. Au sein de Pôle emploi, ça n'arrête pas de changer. La convention de 2017, 2019, 2021, là, 2023, on a encore eu quelque chose qui s'est mis en place. Et là, 2024, il va faire quoi ? Il est en train de mettre la France, lui et le gouvernement de Macron est en train de mettre la France en précarité. Et c'est pas normal quand on voit que les députés et les sénateurs ont été augmentés. Ils tapent pour faire l'équilibre de la France, ils tapent sur les demandeurs d'emploi.
Oui, c'est comme ça qu'ils le présentent d'ailleurs. Hein. C'est il manque des sous, il faut réduire les dépenses, donc on va encore réformer l'assurance chômage. C'est-à-dire, c'est une conséquence immédiate.
C'est ça, mais c'est inadmissible. Ils ont déjà réduit la durée. Les plus de 50 ans avaient 3 ans d'indemnisation, on est passé à 2 ans. Il y avait le maintien jusqu'à la retraite, ça commence à partir à volo. Il y a quelques années en arrière, il y avait la dispense de recherche d'emploi, ça a été annulé aussi. À un moment donné, il faut prendre conscience. Ce jeune homme de 30 et quelques années n'a jamais travaillé dans le privé, n'a jamais été demandeur d'emploi. Il ne se rend même pas compte de la situation des demandeurs d'emploi.
Christelle, vous qui la connaissez, cette situation, j'ai envie de vous poser une question très concrète. Est-ce que réduire la durée d'indemnisation de tous ceux dont vous connaissez les dossiers et que vous suivez au quotidien, est-ce que pour vous, ça aura un impact sur le fait de retrouver un emploi ?
Non.
Non.
Pour moi, non. Non, non, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne retrouvent pas. Il faut être réaliste. J'entendais le monsieur qui travaille dans le transport. Alors, quand il a dit transport, je me suis dit, mais comment que ça se fait qu'il trouve pas de taf? Mais c'est normal. Il peut pas en trouver. Il a un problème d'inaptitude par rapport à son dos. Il a 40 et quelques années, si j'ai
bon souvenir. Oui, 42.
Voilà. Donc, arrivé à un moment, à un certain âge, il faut pas se voiler la face.
L'employeur ne va pas le prendre en se disant, si je le prends et que dans 3 mois il tombe en arrêt maladie, je ne le prendrai pas. C'est ce que vous constatez, Christelle.
Entre l'arrêt de maladie, entre le fait qu'il a de l'expérience et qu'il faut le payer correctement. Il y a quelques jours, vous aviez eu quelqu'un qui bossait dans le transport qui voulait pas de CDI parce qu'il était mieux payé en étant en intérim.
Je ne sais pas
si vous vous souvenez.
Tout à fait.
Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, réduire l'indemnisation, ça servira à rien.
Ça n'aura pas l'effet que nous promet effectivement Gabriel Attal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pour trouver de l'argent, cette raison-là, cet objectif-là qui est présenté par le Premier ministre hier, vous paraît inefficace. Merci, en tout cas, Christelle, d'avoir poussé la porte du 32-16. Votre témoignage, évidemment, il est d'autant plus intéressant que vous êtes aux premières loges. Je rappelle, Christelle, que vous travaillez justement à France Travail dans la Manche. Merci de votre réaction. 7h12 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
8 mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, une grande partie du village du Haut-Vernay va rejouer en quelque sorte la scène. Ils vont revivre le jour J, une sorte de reconstitution des derniers instants avant que le petit garçon ne disparaisse. Comment ça va se passer? Est-ce que ça peut véritablement faire avancer l'enquête, réveiller des mémoires endormies? Élément de réponse dans un instant avec le témoin du jour.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 sur RMC. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Bonjour Philippe Zankiewicz, vous êtes ancien gendarme, membre de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Et on a besoin de votre expertise ce matin parce qu'on le sait, des grands moyens vont être déployés toute la journée au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, pour tenter de reconstituer, c'est comme ça qu'on dit, reconstituer une situation juste avant les heures qui ont précédé la disparition du petit Émile. Première question, comment ça marche cette mise en situation? Est-ce que c'est comme un scénario de film? Est-ce qu'il y a des acteurs? Est-ce que c'est filmé? Est-ce qu'on reconstitue dans le décor réel des scènes, un enfant qui passe dans la rue? Comment ça marche? Comment ça se fait?
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Bien, il faut avant tout faire bien la différence entre une reconstitution judiciaire, qui est une procédure destinée à mettre en scène un crime avec un suspect, pour comprendre le déroulement temporel et confirmer, infirmer les dires, etc. Il n'y a pas d'acte précis dans le code de procédure pénale, sauf l'article 81 de ce même code qui permet au juge de faire tout acte nécessaire pour manifester pour trouver la vérité. Par contre, actuellement, pour l'affaire d'Émile, il s'agit d'une mise en situation. Donc, c'est une technique propre qui permet de placer une personne ou un groupe de personnes dans un contexte précis et de simuler une situation. Pour résumer, et pour faire simple, c'est une reconstitution qui permet de mettre des images sur des dires, des témoins par rapport aux déclarations qu'ils ont faites.
L'idée, c'est que ces images puissent éventuellement réveiller une mémoire endormie, c'est-à-dire peut-être que en se retrouvant dans cette rue-là précisément avec un enfant qui passe, ils vont se dire ah mais oui, il y avait quelqu'un ou il y avait une voiture, ou c'est ça l'idée.
Tout à fait, parce que ça permet également de faire ressortir des contradictions ou des incohérences. Et qui dit incohérence dit mensonge en matière d'horaire, de chronologie des faits et d'activité des personnes. Alors, il est évident que chaque personne et protagoniste qui vont être sur présents, qui devront refaire les gestes qu'ils faisaient par rapport à ce qu'ils ont déclaré, Et évidemment, ne rien oublier, et puis les oublis, les omissions, ou ne pas en rajouter non plus, ça c'est important. C'est surtout de bien mettre en corrélation les dires, les actions qui sont faites, et de photographier, de filmer en présence des personnes.
Deux points encore sur lesquels j'aurais aimé avoir votre éclairage, Philippe Zankevitch. 17 témoins sont convoqués aujourd'hui. Le premier dit avoir vu le petit garçon déambuler seul sur la route, qui descend de la maison des grands-parents. Et il y a un autre de ces témoins qui dit qu'il l'a vu remonter la rue. Est-ce que le fait de, justement, descendre, remonter, est-ce que le fait de se retrouver dans cette fameuse rue, avec cette pente, peut soudain faire que l'un des deux va dire « Ah non, en fait, je me suis trompé, finalement, il remontait ». Et puis l'autre question, c'est qu'on est en mars, donc dans une région qui reste encore très froide à cette période-ci de l'année. Le petit Émile a disparu en juillet. Est-ce que le fait que le paysage soit très différent, dû aussi à ce changement de saison, est-ce que ça peut brouiller en quelque sorte la mémoire ?
Oui et non, parce que le but principal, c'est de faire revivre à toutes ces personnes présentes le moment M. Et chacun va devoir refaire ce qu'il est en train de faire. Alors on sait que vers 17h15, justement, les contradictions de ces témoignages, de l'enfant qui descend, de l'enfant qui remonte, il va falloir être appuyé sur cette affaire et que les personnes se mettent d'accord d'après leur situation, d'où ils étaient et ce qu'ils ont vu, et ensuite voir un petit peu l'orientation de la rue. Et bon, les saisons sont passées, mais la situation reste la même.
Revivre le moment M. Merci Philippe Zankevitch pour cet éclairage ce matin. Ancien gendarme, membre de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues. 7h19.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, le 7h20 d'Apolline Matin avec Manu Le Chypre, Arnaud Demanche et Amélie Rosic. Et puis à 7h40, ce sera la porte-parole du gouvernement qui viendra débriefer les annonces de Gabriel Attal hier sur l'assurance chômage. Les syndicats n'en veulent pas. Réponse donc de Prisca Thévenot dans 20 minutes.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de la préparation des Jeux Olympiques ce matin avec Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline.
Hier, le comité d'organisation a expliqué lors d'une audition à l'Assemblée nationale que 97% des besoins en sécurité étaient réalisés. Mais vous nous révélez ce matin, Nicolas, que c'est pas si simple que ça.
Oui, il faut faire attention, cela ne veut pas dire que 97% des agents sont recrutés. Il y a une vraie différence, souligne un proche de l'organisation. Actuellement, Paris 2024 avance dans l'attribution du marché de sécurité à des entreprises, mais le secteur sous tension ne facilite pas la tâche pour trouver des agents. À moins de 4 mois de la cérémonie d'ouverture, aucune garantie n'existe aujourd'hui pour affirmer que tous les besoins de sécurité privée seront comblés pendant les Jeux. Le comité d'organisation estime ses besoins entre 18 et 22 000 agents par jour pour sécuriser ses sites olympiques. Mais la grande crainte de l'organisation reste les no-shows, en clair des agents qui ne se présenteraient pas à leur poste le matin des épreuves. Emmanuel Macron a donc demandé la formation d'une réserve. 4000 agents supplémentaires en moyenne seront nécessaires. Et dans les prochaines semaines, des grandes entreprises vont mettre en place leurs animations pour la période des Jeux. Elles auront donc également des besoins de sécurité privée. Ces entreprises rémunèrent mieux les agents et donc certains pourraient être tentés par cette aventure. Le temps de l'armée n'est pas encore venu, souligne une source proche du dossier. Le mois d'avril devrait permettre d'y voir un peu plus clair sur cette question. D'autres interlocuteurs affirment qu'ils n'ont plus aucun doute. Ils répètent que l'armée sera nécessaire pour sécuriser certains sites olympiques.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic.
Bonjour.
Manu Le Chypre.
Bonjour.
Arnaud Demanche.
Bonjour
à tous les trois. Amélie, aujourd'hui on part en vacances.
On va essayer avec Kevin, son épouse et leur jumeau de 19 mois. La petite famille vit en Martinique. En octobre dernier, ils s'envolent pour l'Allemagne pour les premières vacances. Le frère de Kevin vit en fait à Hambourg, donc tout le monde se réunit autour de lui pour son anniversaire. Et à l'arrivée, mauvaise surprise, aucun bagage.
On se retrouve avec les enfants qui n'ont pas de vêtements, pas de couches, pas de lait. Donc on doit tout racheter. En plus, on est en octobre, il fait 4 degrés pour des enfants qui n'ont jamais vu ni la neige ni le froid.
Les enfants sont des jumeaux de 19 mois. Facture totale, 1 400 €. Les bagages finiront par arriver la veille du vol retour. Mince alors, Kevin doit aller les chercher lui-même dans un hangar d'une société de livraison dans la banlieue de Hambourg. Et leurs affaires personnelles sont dans un état déplorable.
3 valises sur 4 sont cassées. La poussette qu'on a achetée exprès pour l'occasion, elle ne roule plus droit. C'était les premières vacances de nos enfants. Ça a un peu gâché le séjour, autant pour nous que pour les enfants et mon frère dont c'était l'anniversaire.
Alors les vacances, franchement, on vire au cauchemar. Double peine derrière, si je comprends bien.
Absolument. Autour de la table, je suis à peu près sûre que vous avez déjà voyagé avec des bébés.
Oh oui,
globalement, c'est quand même un peu une aventure en soi. Bon, là, clairement, c'était la galère.
Si en plus, on a et plus ensuite, la poussette et les couches.
Voilà, ouais. La galère et ensuite la guerre administrative presque. Kevin a dû produire tout un tas de documents à Air France que notre reporter Ameline Lafchin a pu se vérifier. Certificat de non-réparabilité de la poussette établi par un professionnel. Facture originale des valises. Bon, ça, voilà. Justificatif des dépenses sur place. La compagnie a accepté de rembourser une partie des frais engagés, 1100 euros, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'était début novembre, il y a bientôt 5 mois donc.
Et donc la totalité des frais n'a pas été remboursée?
Non, un problème avec les justificatifs. Une réponse un peu énigmatique d'Air France, impossible d'en savoir plus. On attend un nouveau retour de la compagnie aérienne qui se penche sur le dossier à l'heure où l'on se parle. Et on ne lâchera rien, vous le savez, parce qu'à RMC, on s'engage avec vous.
Merci Amélie, et vous connaissez le chemin, RMC avec vous, @rmc.fr. Manu, l'écho, un sujet qui nous concerne, notamment si on emploie une nounou à domicile, on reste dans les domaines des enfants. La Cour des comptes veut raboter les aides pour l'emploi à domicile.
Oui, effectivement, un crédit d'impôt, taux de TVA réduit, exonération de cotisations sociales, les aides aux services à la personne, ça coûte presque 9 milliards à l'État, c'est... Premier crédit d'impôt, c'est plus que le crédit d'impôt recherche. Par exemple, ça fait plus de 9 euros d'aide publique par heure travaillée et ça augmente beaucoup. Or, tous ces dispositifs, donc emploi à domicile des nounous, des femmes de ménage, des jardiniers, des auxiliaires de vie pour les personnes âgées, etc., ça profite majoritairement aux 20% de Français les plus aisés qui pourraient peut-être mettre un peu plus de leur poche.
Et donc, que propose la Cour des comptes ?
Recentrer tous ces dispositifs sur les aides indispensables. Ça veut dire, par exemple, supprimer la TVA réduite à 10% pour, par exemple, le soutien scolaire, l'aide administrative, le petit bricolage, taux qui repasserait à 20%. Rien ne changerait, par contre, pour les postes essentiels que sont l'autonomie des personnes âgées ou la garde d'enfants. Même chose pour le crédit d'impôt, dont les paramètres seraient modulés selon les prestations ou les revenus des contribuables. Gain espéré de ces réformes, 1 milliard d'euros.
Et dans le moment actuel, on imagine que l'État ne va pas s'en priver. Arnaud,
oui,
mon invité ce matin, c'est Mickaëlle Paty. C'est la sœur de Samuel Paty et c'est la première fois qu'elle prend la parole.
Ah oui, on va rire un peu.
Dur, j'avoue.
Mettez-vous à ma place. Hein. Aujourd'hui, Arnaud Demanche, le sujet de votre chronique humour, c'est Samuel Paty. Ah génial, non, c'est pas simple de faire des blagues sur le sujet. Mais comme Samuel Paty a eu le courage de défendre l'humour face à l'obscurantisme, je me suis dit... Allez, Samuel Paty était donc menacé depuis plusieurs jours avant le drame. Il avait été abandonné par sa hiérarchie au titre du pas de vague. À l'époque, le ministre était Jean-Michel Blanquer, c'était Brice de Nice. Non, pas de vague là, non, pas de vague. Je crois que c'est bon. En plus, c'est pas vrai. Hein. Chaque fois qu'il y a un problème avec un élève, l'éducation nationale est toujours intervenue et le professeur a toujours été sanctionné. Mais c'est ça qu'on te reproche, Jean-Michel. Les profs demandaient plus de soutien, mais bon, les profs, ils arrêtent pas de réclamer des trucs aussi, des moyens, du personnel, du soutien, du matériel. Ils se plaignent tout le temps. C'est pas facile de savoir ce qui est important ou pas. Pauvre Blanquer, le malheureux. Alors après l'attentat, le gouvernement avait été très ferme aussi. C'était « ils ne nous diviseront pas, ils ne nous empêcheront pas d'allumer des bougies, d'amener des nounours, des dessins, de chanter du Hugo Frey à la guitare sèche ». Là encore, comme réaction,
beaucoup de
c'était
courage.
Un peu léger. Donc Mickaëlle Paty a engagé un recours administratif afin que l'État reconnaisse sa responsabilité dans l'attentat. Aujourd'hui, est-ce que ça va mieux ? La musique a l'air de changer. Gabriel Attal a annoncé hier soir porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève voilé qui avait accusé d'islamophobie le professeur de Maurice Ravel qui lui avait demandé d'enlever son voile. Mais il avait fait qu'appliquer la loi, cet homme-là. Enfin, c'est un peu comme si tu te prenais une amende pour excès de vitesse et que tu dises « c'est de la voiturophobie, monsieur l'agent. Vous n'êtes qu'une vulgaire Anne Hidalgo. Vous vous en prenez à moi parce que j'ai une voiture. » Donc, l'État était-il responsable dans cette histoire ? La situation s'arrange-t-elle ? On le saura avec cette interview à ne pas louper de Mickaëlle Paty à 8h30.
Et c'est effectivement un témoignage exceptionnel que vous entendrez tout à l'heure à 8h30. Merci Arnaud. 6h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'État va porter plainte après la démission d'un proviseur parisien menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir. Le Premier ministre sur le front de la laïcité et sur celui du budget. Il a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage et il compte bien associer les oppositions à l'effort collectif. Réunion à Bercy cet après-midi. Et puis d'où viennent les aliments transformés que l'on consomme ? Près de 70% d'entre eux n'indiquent pas leur origine selon l'UFC. C'est que choisir. L'État va porter plainte contre une élève du lycée Maurice Ravel à Paris.
Celle qui, il y a un mois, jour pour jour, refusait de retirer son voile à la demande de son proviseur. Elle l'accuse de l'avoir violentée. En réponse, l'État va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Une façon de soutenir le chef d'établissement qui a démissionné fin de semaine dernière après avoir été la cible de menaces de mort. C'est Gabriel Attal qui l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1 après avoir reçu l'ancien proviseur.
L'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ces agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir, ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty.
Une affaire qui secoue toute la communauté éducative et au premier plan, ce lycée parisien où sont retournés Martin Bourdin et Alfred Orange pour RMC.
Des dizaines d'élèves s'agitent sur le trottoir devant les grilles du lycée. Peu en parlent, mais beaucoup, comme Deva, ont été surpris par la démission de leur proviseur.
C'est triste, je trouve. Un directeur, il essaye juste de faire appliquer le règlement de l'établissement, en fait, c'est-à-dire la laïcité, et il se retrouve à ne plus avoir de travail. On ne trouve pas ça normal, parce que nous, on se dit quoi ? On se dit déjà, s'ils n'arrivent pas à protéger ceux qui représentent l'éducation nationale, nous, comment ils vont nous protéger ?
Mais d'autres élèves sont plus sévères. Dans la classe d'Oriane, par exemple, quand le changement de proviseur est évoqué,
ils ont commencé à applaudir, ils célébraient ça.
Car même si elle a été classée sans suite, ce que beaucoup retiennent, c'est la plainte déposée par la lycéenne contre son ancien proviseur.
On comprend le fait qu'il a pu demander à une élève d'enlever son voile, mais comment il a fait ? Peut-être avec violence.
Ces problèmes liés à la laïcité, les enseignants y sont régulièrement confrontés, explique une prof de musique de la cité scolaire Maurice Ravel.
Ça prend des proportions qui ne devraient pas être, effectivement. Il y a une montée d'un problème du religieux qui revient alors que c'était terminé depuis longtemps. Ça inquiète.
Ça inquiète, ça agace aussi certains professeurs qui aimeraient retrouver de la tranquillité au sein de leur établissement pour que les élèves puissent travailler sereinement.
Et ne manquez pas mon invité à 8h30 ce matin, ce sera Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, invitée exceptionnelle. C'est la première fois qu'elle prend la parole à la radio, à la télévision depuis la mort de son frère assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020.
Au-delà de cette question de la laïcité, l'interview de Gabriel Attal a beaucoup tourné autour des finances de l'État. Hier, le Premier ministre a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la quatrième depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Elle doit entrer en vigueur à l'automne. Objectif, trouver de nouvelles économies en réduisant notamment la durée d'indemnisation des chômeurs. Mais face à un déficit public en pleine déroute, il va falloir aller plus loin. Et le gouvernement veut associer les oppositions à sa réflexion. Première réunion dès cet après-midi à Bercy. Bruno Le Maire reçoit tous les leaders des groupes parlementaires, mais ça s'annonce très tendu, Martin Juré.
La réunion est censée durer plus de 2 heures, mais elle pourrait bien tourner court si le Rassemblement National et la gauche ont décidé de répondre présent. Un patron de groupe le dit d'emblée, on risque surtout d'acter nos désaccords. Pour Bercy, il faut trouver des économies et uniquement des économies. Or, les insoumis et les socialistes, par exemple, veulent mettre sur la table des propositions de recettes supplémentaires pour équilibrer les comptes publics, taxer les plus riches, lutter contre la fraude. Mais pas question de créer de nouveaux impôts, répète en boucle Bruno Le Maire. Les Républicains, eux, ont même décidé de boycotter le rendez-vous parce que le gouvernement cherche à faire porter par les oppositions les mesures impopulaires, assure un leader de la droite. Sauf que l'exécutif n'entend pas les lâcher et assure déjà que cette réunion n'est que le début d'un cycle.
Mise en situation ce matin au hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs ont convoqué 17 personnes pour une sorte de reconstitution du jour de la disparition du petit Émile. C'était il y a près de 9 mois. On sera sur place dans le journal de 8h. 7h36, sait-on vraiment ce qui se trouve dans nos assiettes ? Près de 70% des aliments transformés n'affichent pas de mention sur leur origine. C'est le constat dressé par l'UFC Que Choisir. Dans une étude publiée ce matin, l'association de consommateurs dénonce l'opacité entretenue par les industrielle. Elle appelle à ce que l'indication d'origine que va mettre en place le gouvernement soit obligatoire et non facultative, Vincent Chevalier.
On ne part pas de loin, on ne part de rien, avoue un industriel. Effectivement, aujourd'hui, rien n'oblige les entreprises à détailler l'origine des ingrédients dans les produits transformés. Les associations de consommateurs voudraient donc passer par la contrainte, irréaliste pour les agro-industriels, qui ne semblent pourtant pas fermés à plus de transparence. Carole Perrier, déléguée générale de l'Association des industries agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes.
On a de plus en plus de problématiques de sourcing sur certaines matières et on est obligé de jouer
sur plusieurs provenances. Du jour au lendemain, vous êtes obligé de changer parce que c'est pas parce que vous souhaitez changer, c'est parce que vous êtes contraint de changer. Ça veut dire qu'une fois que c'est apposé sur un emballage, ben, il faut changer tous vos emballages. C'est très compliqué et surtout, ça coûte très cher.
Pour le gouvernement, c'est clair, impossible de contraindre sans se faire retoquer par l'Union européenne. Son Originoscore, un indice de transparence prévu pour mai, se fera donc sur base du volontariat.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est l'As Clavus, l'outsider. C'est le numéro 13, Fashion Grey, la course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. Élise, vous êtes en train de porter chance.
Eh oui, je sais.
C'est sûr, Elle déclenche l'alerte. Vous l'avez entendu, c'est l'alerte coffre. Il y a jusqu'à 50 000 euros cachés dans ce coffre. Et ils sont à gagner vendredi. Pour ça, vous vous inscrivez demain. Dès maintenant. Oui, c'est demain vendredi.
Mais oui, il arrive
je sais plus quel jour on est. Il est 7h37. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. 5 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. Et on sera très, très heureux d'ouvrir ce coffre avec vous demain. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC, 6h39.
Apolline Matin.
La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, est l'invitée du jour avec beaucoup de questions sur l'assurance chômage, la nouvelle réforme annoncée hier par Gabriel Attal. Qui sera concerné? Est-ce que le montant des allocations va baisser? Est-ce que la durée d'indemnisation va baisser? Est-ce que les seniors seront également concernés? Et puis on reviendra aussi sur le lycée Ravel à Paris, ce proviseur menacé de mort, simplement parce qu'il a demandé à une lycéenne de retirer son voile. Il a fait respecter la laïcité. Toutes ces questions à la porte-parole du gouvernement dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur Direct Studio, sur l'appli RMC. On va regarder vos messages, vos réactions sur la question de l'assurance chômage. Faut-il réduire, durcir les conditions pour inciter les chômeurs à reprendre du boulot? Tiens, Caroline nous écrit sur le chômage. Moi, je vais vous donner des exemples. Je connais très bien une infirmière qui a décidé de quitter la clinique dans laquelle elle travaillait pour faire de l'intérim. Hier, elle m'a dit « c'est super, désormais je suis mieux payée, je m'organise comme je veux. Le mois prochain, par exemple, elle ne travaille pas, elle prend un mois sabbatique payé au chômage. Même chose pour mon voisin, il est cuisinier, il travaille pendant 6 mois dans un camping et puis le reste de l'année c'est le chômage qui finance pendant 6 mois. Donc il y a vraiment un problème sur la gestion de l'assurance chômage, estime Caroline. Karim lui nous écrit, ces annonces pour moi c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Plus de personnes qui travaillent, c'est plus de cotisations. Donc en effet il faut faire attention à ne pas stigmatiser les chômeurs, s'en prendre aux plus précaires, ce n'est pas forcément la solution quand on veut relancer la France, estime Karim. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous venez témoigner, interpeller la porte-parole du gouvernement tout de suite sur RMC au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Prisca Thévenot. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Hier, Gabriel Attal a donc annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage après celle de 2019, après celle de 2023. Et il a expliqué ça comme une réponse immédiate et directe au fait qu'il y a un trou dans les caisses. Donc on se dit, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il y a un gros déficit. Donc, on va réduire les allocations chômage. Ça vous paraît vraiment logique?
Il y a une logique qui est imparable, c'est celle qui veut qu'on continue à lutter inlassablement contre le chômage. Parce que refuser de lutter contre le chômage, c'est nier deux réalités. La première, c'est que si on veut continuer à maintenir, à renforcer notre système de solidarité sociale, investir pour nos services publics, que ce soit la santé, l'école, les forces de l'ordre, la justice, et puis l'autre réalité, c'est qu'on doit aussi pouvoir accepter de dire que quand on est en chômage, c'est une situation d'instabilité, de fragilité. Ce sont des projets familiaux, personnels, arrêtés, empêchés. Eh bien oui, nous devons pouvoir lutter contre le chômage et donc créer de la richesse pour le pays.
Ce que nous disait tout à l'heure Christelle, qui nous a appelé au 3216, auditrice RMC, qui travaille à France Travail, elle disait oui, mais le problème c'est que nous, d'abord, un, on a eu des changements tout le temps. C'est-à-dire qu'elle dit, on a quasiment tous les 6 mois, elle nous en faisait la liste de ces dernières années, des changements dans les procédures, des changements dans les allocations, des changements dans les directives qu'on leur donne à eux, agents de Pôle Emploi. Enfin d'ailleurs, elle disait Pôle Emploi alors que ça s'appelle depuis France Travail. Donc même le nom a encore changé, ça fait beaucoup beaucoup de changements. Et puis elle disait, moi, quand j'ai face à moi des chômeurs qui parfois sont au chômage depuis longtemps, c'est pas parce que je vais leur dire que les allocs s'arrêtent dans un mois qu'ils vont plus activement chercher du boulot. Elle dit ceux qui cherchent activement du boulot, c'est pas une question de timing, c'est que s'ils trouvent pas.
Eh bien, effectivement, j'ai entendu le témoignage de cette jeune femme que je salue, Christelle, je crois
oui,
que c'est ça.
Oui, tout à fait.
Elle a raison sur deux points. Effectivement, nous devons continuer à réformer pour pouvoir avancer, je vous le disais, créer de la richesse pour notre modèle social, mais aussi et surtout pour les chômeurs eux-mêmes. Et pour cela, eh bien oui, nous avons accéléré les choses. Et je dois le dire, nous devons continuer à le faire. Donc, le premier enjeu, c'est d'accompagner les agents de France Travail, pour qu'ils puissent accompagner, comme il se doit au quotidien, ces femmes et ces hommes qui, d'un seul coup, se retrouvent dans la difficulté, qui se retrouvent sans travail. Maintenant, l'autre point, et je la rejoins aussi, c'est que le principe de France Travail, qui était avant Pôle emploi, au-delà du changement de nom, c'est aussi un changement de méthode. C'est avoir cette capacité à regarder la situation économique d'un territoire et être en mesure de pouvoir adapter la formation d'une personne qui se retrouve sans emploi pour qu'elle colle plus facilement aux réalités de besoins du territoire. Et donc, c'est tout l'enjeu du travail des agents de France Travail, comme Christelle, notamment, que je sais.
Même si pour elle, ce qui était difficile aussi, c'est ce changement de méthode pratiquement tous les six mois. Mais j'entends, Prisca Thévenot, votre ambition de relancer encore le travail. Avec quelle méthode, donc? On a bien compris qu'on allait réduire la durée maximale d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Gabriel Attal a dit que ça devait baisser. Est-ce qu'il y a un palier? Est-ce que vous vous dites, voilà, on va passer de 18 mois à, je sais pas, à 16 mois, à 15 mois, à 10 mois?
La première des réalités qui a été rappelée par le Premier ministre hier, Gabriel Attal, c'est qu'il y a des négociations syndicales en cours. Elles ont jusqu'au 8 avril, elles ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir donner leurs conclusions. Ces conclusions, elles vont effectivement s'inscrire dans un cadre qui a été rappelé par le Premier ministre hier autour de trois grands indicateurs. La première, c'est sur la durée d'indemnisation. La deuxième, c'est sur la durée de cotisation. Et la troisième, c'est sur effectivement le taux, le montant de l'indemnité sur lequel il s'est prononcé hier déjà en disant qu'il n'était pas forcément favorable. Sur cela, les organisations syndicales vont se prononcer, donc bientôt, dans une semaine. Et nous allons pouvoir mettre en œuvre une réforme qui sera ensuite proposée pour pouvoir être mise en œuvre d'ici la fin de l'année.
Est-ce que les seniors seront concernés?
Nous devons regarder tous les pans de la vie d'une personne.
En tout cas, ils ne seront pas préservés, si je vous entends.
Vous savez, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites l'année dernière et je suis venue sur votre plateau l'année dernière en tant que députée pour vous parler de cette réforme des retraites.
Tout à fait.
Il y avait justement des mesures à l'endroit des seniors pour les protéger, notamment les carrières longues, pénibles, où nous expliquions que nous allons en mettre en place des critères pour pouvoir mieux former, reformer et accompagner sur les fins de carrière, notamment les seniors qui ont eu des carrières complètement différentes et difficiles tout au long de leur vie. Tout cela, nous devons continuer à le regarder. Attention, il ne s'agit pas comme ça de venir lancer des mesures et des indicateurs. Il s'agit de coller à la réalité des Français. Et aujourd'hui, il faut pouvoir le dire. Oui, être au chômage, c'est être dans une instabilité que nous ne devons pas accepter. Nous devons continuer à lutter contre le chômage, comme nous le faisons depuis 2017 d'ailleurs.
Il y a quand même une chose qui paraît, et je reviens à ma première question, c'est la logique qui est la vôtre. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines maintenant, c'est le SOS sur les finances publiques, d'abord lancé par Bruno Le Maire, puis repris par Gabriel Attal, par Emmanuel Macron. On sent bien d'ailleurs que les agences de notation n'ont pas grande confiance dans la trajectoire budgétaire de la France. En gros, il n'y a plus de sous. Et l'une des premières mesures... Bah, il n'y a plus de sous. Il y a, un déficit considérable.
Alors,
il faudrait savoir s'il faut s'inquiéter parce que j'ai du mal à comprendre.
Bah, merci de poser cette question. Effectivement, en arrivant à Matignon, le Premier ministre a regardé la situation économique, a tout de suite anticipé en disant que parce que nous n'avions pas décroché sur les dépenses que nous avions faites, au contraire, nous n'avons pas du tout décroché, mais sur les recettes, nous avons eu moins de recettes. Et donc, par rapport à ça, il a anticipé les choses et il a demandé une annulation de 10 milliards de dépenses. Mais 10 milliards de dépenses sur combien? Sur 1600 milliards. Donc on peut pas dire qu'on ne continue pas à se donner les moyens de nos ambitions pour la santé.
Ces 10 milliards sont devenus 20 milliards pour l'an prochain et 50 milliards pour l'année suivante.
Écoutons ce qu'on dit, remettons les choses dans leur contexte. Nous continuons à investir massivement pour la santé, pour nos écoles, pour nos forces de l'ordre, pour notre justice. 1600 milliards d'euros. Il faut aussi pouvoir...
Mais c'est bien l'argument qui a été donné, Prisca Thévenot. Je voudrais quand même comprendre, c'est bien l'argument qui a été donné pour cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. On est bien d'accord. L'argument qui a été donné, c'est qu'il faut trouver des sous.
Mais est-ce que, encore une fois, je vous le redis, c'est nier la réalité que de ne pas regarder les choses en face? Est-ce que nous voulons préserver notre modèle social en France? Est-ce que nous voulons continuer à investir dans notre service public? Est-ce que nous voulons empêcher des gens de tomber dans la précarité de longue durée? Oui, et encore oui. Et donc pour cela, eh ben oui, nous devons accepter de créer de la richesse collectivement et donc d'inciter à la reprise vers le travail. Mais c'est pas simplement inciter la reprise vers le travail, inciter à la reprise vers le bon emploi. Et donc il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été dites hier par le Premier ministre. C'est cette capacité aussi à faire en sorte qu'on puisse s'émanciper par son travail et donc avoir un salaire à la hauteur. Donc c'est ce principe aussi d'empêcher ces trappes à bas salaire pour pouvoir évoluer tout au long de sa carrière.
Désmicardisé, comme l'a dit le Premier ministre. Prisca Thévenot, il y a un autre point sur lequel Gabriel Attal s'est exprimé hier, c'est le fait que le proviseur du lycée Maurice Ravel ait quitté sa fonction parce qu'il craint pour sa sécurité. Gabriel Attal qui a d'ailleurs annoncé que l'État allait porter plainte contre la jeune fille qui est à l'origine de ces menaces de mort et qui dit avoir été violentée par ce proviseur qui lui demandait de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. Est-ce que cette plainte est symbolique ou est-ce qu'elle aura une réalité matérielle? Comment est-ce que est-ce que c'est pour dire voilà, l'État fait quelque chose?
Mais l'État fait quelque chose. La République se tient derrière celles et ceux qui participent à l'émancipation de nos enfants, derrière celles et ceux qui sont en permanence là pour permettre d'éduquer nos enfants à l'école, leur apprendre les maths, le français. Et donc nous devons toujours les soutenir et c'est important.
Vous avez entendu ce que Gabriel Attal dit, l'Académie dit il a quitté son emploi pour convenance personnelle. C'est quoi cette pudeur?
Vous avez raison. Il ne faut pas avoir de pudeur. Et c'est justement ce qu'a fait Gabriel Attal hier. Il a pris ses responsabilités. Jamais il ne se dérobera, jamais. Il l'a fait en tant que ministre du budget, il l'a fait en tant que ministre de l'éducation nationale et il le fait encore aujourd'hui en tant que Premier ministre.
Le proviseur a peur. Il a peur et il a démissionné et l'Académie dit il est parti pour convenance personnelle.
Mais je vous le dis encore une fois et c'est la raison pour laquelle l'État porte plainte. L'État porte plainte. Donc maintenant, ce que nous devons accepter, c'est de collectivement continuer à nous mobiliser et ne pas avoir de pudeur, vous avez raison, pour nommer les choses.
Michaël Paty sera mon invité tout à l'heure à 8h30, la sœur de Samuel Paty. Elle estime que l'État a failli dans sa responsabilité à ne pas empêcher la mort de son frère. Il y a eu 11 jours d'emballement pendant lesquels il a porté plainte, il a dit sa détresse et il n'a pas été protégé. Il est parti seul ce vendredi soir d'octobre 2020, il est parti seul du lycée avec un marteau dans le sac à dos pour seule protection. Est-ce que vous estimez que oui, l'État doit dire à un moment qu'ils ont failli?
Je pense que déjà le premier moment, c'est effectivement de comprendre la peine et la douleur de la famille, mais également d'une nation tout entière. Parce qu'au-delà de l'homme qui a été abattu, tué par un terroriste islamiste, il y a toute une nation qui est heurtée. Et je pense que collectivement, ensemble, nous devons regarder comment nous améliorer pour nous protéger. Et c'est ce que nous faisons, non pas depuis quelques semaines, depuis quelques années, mais depuis 2017, avec le renforcement de nos renseignements territoriaux, avec des moyens supplémentaires auprès de nos forces de l'ordre, mais également avec des outils législatifs. Et donc tout cela, nous devons le faire avec une idée en tête. Ne nous trompons pas de cible. Les coupables, et les uniques coupables, sont les terroristes islamistes.
Merci Prisca Thévenot d'être venue dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du gouvernement. Il est 7h51 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, expliquez-nous Nicolas Poincaré.
Et je vous explique pourquoi l'Assemblée va examiner aujourd'hui une résolution sur la reconnaissance du massacre des Algériens en 61.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Timothée Chalamet va incarner Bob Dylan sur grand écran.
Oui, l'acteur qui cartonne actuellement au box-office, à l'affiche de Dune 2, plus de 3 millions d'entrées en France. Et il vient donc de débuter à New York le tournage d'un biopic de Dylan. Alors on connaît le titre en anglais, A Complete Unknown, un parfait inconnu. On sait aussi que le film va se concentrer sur les débuts de la carrière de la star du rock et de la folk. Bob Dylan a donné son accord et l'accès à ses propres archives pour ce film qui sera donc un nouveau biopic consacré à une star de la musique. Je vous rappelle qu'on a vu récemment des films retraçant la vie de Freddie Mercury, d'Elvis, de Bob Marley. Le biopic d'Amy Winehouse va sortir dans quelques semaines. Celui sur Michael Jackson est annoncé pour 2025, tout comme donc ce film sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet dans le rôle titre.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h55. Expliquez-nous, Nicolas.
Expliquez-nous.
L'Assemblée nationale doit examiner aujourd'hui une proposition de résolution sur la reconnaissance du massacre des Algériens du 17 octobre 61. C'est une des pages les plus noires de l'histoire de France de l'après-guerre.
Oui, même plus que cela, c'est un massacre, une boucherie qui est sans doute la pire répression d'une manifestation survenue en Europe dans l'histoire récente. En octobre 1961, c'était la guerre d'Algérie et à Paris, on n'était pas loin de la guerre civile. Les attentats se multipliaient, les assassinats de policiers en particulier. À Paris, un couvre-feu avait été ordonné uniquement pour les Français musulmans d'Algérie, qui n'avaient donc plus le droit de sortir le soir. Le 17 octobre, le FLN algérien défie les autorités et organise une grande manifestation pour protester justement contre ce couvre-feu. Et très vite, les choses tournent mal. Des coups de feu sont tirés au pont de Neuilly. Des Algériens sont jetés dans la Seine. Dans Paris, la police charge plusieurs cortèges à l'Opéra, à la République, à Saint-Michel. Au moins 12 000 manifestants sont arrêtés en quelques heures et enfermés dans des commissariats ou dans des stades où ils subissent des sévices toute la nuit et encore les jours suivants. Finalement, les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu au moins 120 morts parmi les manifestants. Beaucoup ont été tabassés à mort au Palais des Sports ou au stade Pierre de Coubertin. C'est donc ce drame que les députés vont condamner aujourd'hui à travers une résolution.
Est-ce qu'il s'agit d'un nouvel acte de repentance ?
Non, ce n'est pas une repentance, c'est une condamnation. Mais c'est vrai que c'est aussi un nouveau geste en direction des Algériens et des Français d'origine algérienne. Emmanuel Macron, depuis 2017, a d'abord parlé à Alger de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Il a ensuite reconnu au nom de la France l'assassinat de 2 militants indépendantistes. Il a demandé pardon pour l'abandon des harkis. Enfin et surtout, il a initié le rapport de Benjamin Stora, l'historien qui a fait un énorme travail et qui a proposé une série de mesures de reconnaissance et de réparation des fautes. Des gestes qui n'ont pas été appréciés à leur juste valeur par les Algériens, comme Emmanuel Macron l'espérait. Les autorités algériennes ont considéré que ce n'était jamais assez. Ils ont exigé des excuses en bonne et due forme, ce que Paris a refusé justement pour ne pas tomber dans la repentance.
Alors pourquoi encore une nouvelle résolution aujourd'hui ?
Alors on peut effectivement se poser la question, puisqu'en 2012, François Hollande, président, avait déjà admis une sanglante répression. En 2021, Emmanuel Macron était allé déposer une gerbe au bord de la Seine, à Beson, là où des manifestants ont été jetés dans l'eau en 61. Après 50 ans de silence, la France a donc déjà à plusieurs reprises reconnu sa responsabilité. Mais les députés ont voulu que l'Assemblée nationale aussi inscrive dans le marbre cette page de l'histoire. L'initiative revient à une députée écologiste, Sabrina Sebaï, fille d'immigrés algériens. Elle a notamment insisté pour que le texte désigne nommément le responsable de cette répression, le préfet de police Maurice Papon, qui est ensuite devenu ministre de Valéry Giscard d'Estaing.
Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et dans ce journal de 8h, vous l'entendrez 8 mois après la disparition du petit Émile. Une reconstitution aura lieu aujourd'hui dans le village du Haut-Vernay. On sera sur place en direct dès le début du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.